Radio Prague, les informations.
Miloš Zeman signe la dissolution de la Chambre des députés. L'ancien président Václav Klaus ne sera pas candidat aux élections législatives et le gouvernement présente un plan d'aide aux sans-abri. C'est le sommaire de ce bulletin d'information. Le président de la République, Miloš Zeman, a signé ce mercredi la dissolution de la Chambre des députés. Par cette décision, qui doit être publiée le même jour au journal officiel, la composition actuelle de la Chambre prend fin. Selon Hanna Burjanova, la porte-parole du château de Prague, siège de la présidence de la République, le document a également été signé par le Premier ministre en démission, Jiří Rusnok. La signature de la dissolution s'est déroulée sans la participation des médias. Les élections législatives anticipées sont prévues pour les 25 et 26 octobre. L'ancien président Václav Klaus ne sera pas candidat à ces élections. Il laisse entendre qu'il ne reviendra pas en politique, comme le suggéraient pourtant la plupart des médias depuis quelques jours. Dans son communiqué rendu public ce mercredi, il déclare avoir beaucoup discuté avec certains de ses soutiens et lourdement pesé sa décision. Celui qui fut le chef de l'État de 2003 à mars 2013 considère qu'il aurait pu créer un parti viable pour ce scrutin anticipé. Cependant, le délai de 2 mois lui apparaît trop court pour que cela soit réalisé dans de bonnes conditions. Le Parti social-démocrate a fait part ce mercredi, lors d'une conférence de presse, de son scepticisme concernant une éventuelle intervention militaire en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Le président de cette formation, Bohuslav Sobotka, a déclaré que la République tchèque ne devrait soutenir une telle mission que si elle dispose de l'aval de l'ONU et si elle est en conformité avec le droit international. Il juge de surcroît qu'une attaque militaire des pays occidentaux pourrait paradoxalement aggraver la situation au Moyen-Orient. Le gouvernement a présenté ce mercredi le premier plan en République tchèque visant à aider les sans-abri et à trouver des solutions aux problèmes du logement. Ce plan fixerait différents objectifs, jusqu'à l'horizon 2020 en termes de logement social, de santé et d'autres services sociaux pour les personnes qui vivent dans la rue. Le ministère du Travail et des Affaires sociales doit préciser les mesures concrètes et leur calendrier avant la fin de l'année. Les produits alimentaires polonais ne sont pas de mauvaise qualité, mais souffrent de leur mauvaise réputation sur le marché tchèque. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un représentant de l'État polonais à l'occasion d'une conférence de presse organisée sur le sujet à Prague ce mercredi. Celle-ci visait à lancer une campagne de promotion des aliments en provenance de Pologne, justement pour améliorer leur image auprès des consommateurs tchèques. Le gouvernement a validé ce mercredi les statuts du Fonds d'État de soutien à la cinématographie tels qu'ils sont définis dans la nouvelle loi sur l'audiovisuel. Ce texte de loi met notamment en place des incitations financières pour les équipes de tournage étrangères à venir travailler en République tchèque ainsi que des subventions pour la production cinématographique nationale. La Supercoupe de l'UEFA en football qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, le Bayern de Munich, et le vainqueur de la Ligue Europa, Chelsea, ce vendredi à Prague, est retransmise dans 115 pays. Le match suscite un grand intérêt auprès des médias et près de 200 journalistes sont attendus dans la capitale tchèque, en dépit de stricts critères de sélection des reporters mis en place par l'UEFA. Des centaines de policiers doivent surveiller également le bon déroulement de la finale de la Supercoupe d'Europe, qui débutera à 20h45 ce vendredi au stade de l'Éden. On finit par la météo ce jeudi. Les Evelinas célèbrent en grande pompe leur fête selon le calendrier tchèque. Côté météo, seules les régions de Bohême du Sud et d'une partie de la Moravie sont désormais touchées par les pluies. Sur le reste du territoire, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Les températures maximales vont de 19 à 23 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. La suite du programme, c'est maintenant avec Lucie Draslova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité. Merci à Pierre Meignon pour son bulletin d'information. Comme tous les mercredis, la seconde partie de notre émission sera réservée à la rubrique Histoire. Nous allons rappeler la bataille de Kulm où a été vaincu Napoléon il y a exactement 200 ans cette semaine. Mais avant cela, deux sujets d'actualité dont le premier s'interroge sur une possible participation des troupes tchèques à la mission de l'ONU sur le plateau du Golan qui est à mettre en relation avec la détérioration de la situation en Syrie. Dans notre second thème d'actualité, nous profitons de l'occasion pour vous inviter au festival Babileto l'été indien organisé depuis 24 ans dans les locaux du plus grand hôpital psychiatrique tchèque à Bohnice à Prague. Bonne écoute à toutes et à tous. Il Une intervention aérienne des pays occidentaux s'avère imminente en Syrie en raison de la situation dramatique de ces derniers jours dans ce pays déchiré par la guerre civile. Le président de la République tchèque Miloš Zeman a annoncé ce mardi, à l'occasion de la réunion annuelle des représentants de la diplomatie tchèque à Prague, qu'il souhaitait la participation des troupes tchèques à la mission de l'ONU sur le plateau du Golan. Le chef de l'État l'a fait savoir après l'annonce des autorités autrichiennes 2 mois auparavant de retirer leurs troupes de cette zone tampon en raison de la détérioration de la situation en Syrie. Plus de détails avec Denisa Tomanova.
C'est en 1967 que l'État d'Israël avait occupé le plateau syrien du Golan pour se retirer d'une partie du plateau quelques années plus tard. Depuis 1974, la zone contrôlée par la Syrie et celle contrôlée par Israël sont séparées par une zone démilitarisée, surveillée par les Nations Unies et des observateurs internationaux. Évoquant la détérioration de la situation en Syrie, le président de la République a jugé utile ce mardi de déployer l'armée tchèque sur le plateau du Golan.
Je crois que si des unités de l'armée tchèque sont déployées dans cette zone de vie sécuritaire, alors cela peut considérablement rehausser le prestige de la République tchèque.
Le spécialiste de la défense issu du Parti social-démocrate, Jan Hamáček, se montre prudent face à cette idée, en considérant que ce débat actuel n'est que théorique dans la mesure où de telles décisions doivent être préparées longtemps à l'avance et discutées de façon intensive avec les Nations Unies. Jan Hamáček.
Je dois avouer que le positionnement du président de la République m'a surpris car la situation en Syrie change d'un moment à l'autre et il est nécessaire d'avoir une démarche très prudente vis-à-vis de cela. En ce qui concerne la participation effective de la République tchèque à cette mission de l'ONU, alors cela doit être étroitement coordonné avec le commandement de cette mission qui est actuellement sous la direction de l'Inde, ainsi qu'avec les Nations Unies qui donnent le mandat pour cette mission.
Mais au niveau national, et ce dans le cadre de l'actuel vide relatif de la représentation nationale tchèque, suite à la dissolution officielle de la Chambre des députés ce mercredi, si le gouvernement en démission décide véritablement d'envoyer des troupes de l'armée tchèque, l'accord du seul Sénat suffirait en théorie pour faire envoyer des unités spéciales, ce qui est défini par une loi constitutionnelle de 1998 traitant de la sécurité de la République tchèque. Si les sénateurs sociaux-démocrates soutiennent de façon générale les missions de l'ONU à l'étranger, Jan Hamáček estime qu'avant même qu'une solution soit prise, la République tchèque disposera d'une nouvelle Chambre des députés. Selon l'ambassadeur tchèque en Israël, Tomáš Pojar, il en va de l'intérêt du monde entier à ce que la paix soit maintenue sur le plateau du Golan, tout en ajoutant que les soldats tchèques y seront très probablement sollicités. Toutefois, le chef d'état-major des armées tchèques, Jiří Šedivý, se montre plus sceptique.
Je suis assez réticent face au fait que nos soldats soient utilisés en tant qu'observateurs au sein des missions de l'ONU, et cela pour deux raisons. D'un côté, une telle mission d'observation n'est en général pas très sophistiquée, et les soldats doivent utiliser au maximum leur potentiel, grâce à leur formation et leur préparation. Et d'un autre côté, en règle générale, les missions des Nations Unies possèdent un mandat très faible et les observateurs ne sont pas en mesure de faire autre chose que d'observer.
Jiří Šedivý précise également que jusqu'à présent, jamais une mission d'observation de l'ONU n'a encore accentué le prestige d'un pays ou d'une armée. C'est pourtant ce qu'espère le chef de l'État, Miloš Zeman, comme il l'a déclaré dans son discours devant les ambassadeurs tchèques ce mardi. Si la participation de la République tchèque à la mission d'observation sur le plateau du Golan est plus qu'incertaine, plusieurs mois de violence en Syrie pourraient avoir pour conséquence l'intervention armée des pays occidentaux dans les jours à venir. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne condamnent l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, ayant provoqué la mort de centaines de personnes, bien que l'on ignore encore dans quelles circonstances elles ont été utilisées.
L'hôpital psychiatrique de Prague, Bohnice, ouvre ses portes le 14 septembre à l'occasion de la 24e édition du festival de musique et de théâtre Babi Leto, l'été indien. Cet événement traditionnel, riche en concerts, en ateliers ainsi qu'en visites guidées, propose aux visiteurs de découvrir les activités thérapeutiques diverses et de visiter les salles de l'hôpital non accessibles au public. Le festival a pour but de mieux faire connaître au public le monde de la psychiatrie en visitant l'hôpital psychiatrique le plus grand en République tchèque. Cette initiative vise à déstigmatiser les maladies mentales et à créer un lien entre les « dedans » et les « dehors ». Il s'agit d'une occasion pour les patients de l'hôpital de vivre plus en contact avec la société. Luboš Hlad, organisateur et dramaturge du festival, rappelle la longue tradition de Babi Leto.
Le festival, qui existe depuis 1990, est né de la volonté de deux associations culturelles, Focus Praha et Uni Jazz, d'organiser une rencontre artistique dans les locaux de l'hôpital psychiatrique de Prague-Bornice. Dès lors, le festival Babi Leto se situe plutôt à contre-courant de la scène musicale dominante, en faisant une place plus grande au théâtre et à la musique alternative. L'événement a existé sous cette forme pendant 20 ans, jusqu'en l'an 2000.
Le festival, qui a gagné sa reconnaissance parmi les activités organisées à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, a vécu un changement important en l'an 2000, sur lequel revient Luboš Hlad.
Il y a 4 ans, du fait des difficultés de financement, Uni Jazz a proposé à l'hôpital psychiatrique de Bornice de prendre en charge la gestion du festival. Ainsi, le festival se déroule sous les auspices de la direction de l'hôpital depuis 4 ans. Ce changement d'organisateur a également entraîné des modifications dans la programmation. Le festival reste basé sur des spectacles de théâtre et des concerts. Mais nous avons ajouté des activités qui permettent de découvrir l'hôpital et la vie à l'intérieur des locaux. Les personnes intéressées peuvent également visiter des salles qui sont d'habitude inaccessibles au public.
Le programme est en effet très riche. Luboš Hlad ne cite que quelques activités dont l'intégralité est à découvrir sur le site du festival ou bien évidemment directement sur place.
Le festival propose de nombreux concerts, notamment Peter Lipa Band ou le groupe Bitumen Beat. La programmation théâtrale s'adresse surtout aux enfants. Nous essayons chaque fois d'articuler la participation d'artistes professionnels autour des spectacles organisés par des patients et des employés de l'hôpital, ainsi qu'avec nos partenaires du secteur non gouvernemental. En dehors du programme culturel, nous proposons au public de visiter les locaux de l'hôpital. Les visites sont commentées. Les gens peuvent également essayer différentes thérapies au sein d'ateliers, comme l'ergothérapie qui vise à développer l'autonomie dans la vie quotidienne, ou encore l'équithérapie qui utilise le cheval comme partenaire thérapeutique. C'est par ce biais que l'on souhaite présenter au public l'hôpital tel qu'il est.
Les locaux de l'hôpital psychiatrique accueillent régulièrement des projets divers, dont plusieurs encore avant la fin de cette année. Outre le festival Babi Leto, qui aura lieu le 14 septembre, l'ensemble du cirque Paciento, composé des patients et employés de Bornice, présentera ce jeudi son spectacle au théâtre Zazabra de Lima, Prague. Organisé en collaboration avec l'ONG tchèque Ledovce, il est résultat des 3 jours d'atelier intensifs pendant lesquels les membres de Ledovce ont enseigné à l'hôpital des arts du cirque. Une autre occasion encore de visiter les locaux de l'hôpital se présentera au public le 10 octobre lors de la Journée mondiale de la santé mentale, durant laquelle les organisateurs proposeront plusieurs conférences. Enfin, pour clore cette invitation multiple, le 3e dimanche de l'Avent, vous pourrez aider le Père Noël à remplir sa hotte par des créations et des produits de Bornice lors du traditionnel marché de Noël. C'est la fin de ce fait événement. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Comme chaque mercredi, nous allons tourner notre regard vers le passé. Dans cette page d'histoire, il sera question d'une bataille plutôt négligée dans notre histoire, bien que les Tchèques y avaient été du côté des vainqueurs. Il y a de cela tout juste 200 ans, les 29 et 30 août 1813, les forces coalisées d'Autriche, la Prusse et de Russie ont battu l'armée de Napoléon près de Kulm, actuellement Chlumec, située non loin de Ustina nad Labem, à mi-chemin entre Prague et Dresde. À ce voyage dans le temps vous invite Jaroslava Gisibelova.
Chapitre de l'histoire.
La bataille de Kulm-Hlumatsk qui a eu lieu le 29-30 août 1813 pendant la 6e coalition anti-française contre Napoléon est considérée comme un prélude de la bataille de Leipzig, aussi appelée bataille des nations, lors de laquelle Napoléon est défait en octobre 1813. Déjà, la victoire russe sur l'armée française en automne 1812 marque un coup d'arrêt sévère aux ambitions de domination européenne de Napoléon. Il n'empêche que l'année suivante, Napoléon lève une armée pour disputer le contrôle de l'Allemagne lors d'une campagne encore plus grande. Le 26-27 août 1813, l'armée austro-russe est battue à Dresde et effectue sa retraite vers la Bohême. L'empereur envoie alors dans la région 30 000 hommes sous le commandement du général Vandamme. L'enjeu de taille, une nouvelle victoire française, couperait la retraite des armées coalisées et ouvrirait la voie vers Prague. Mais à Kulm, actuellement Chlumetz, à 8 km d'Ustie, nad Labem, Vandamme se heurte à l'armée d'Osterman Tolstoï, l'un des commandants dans la bataille de la Moskova. Suite à cette plus sanglante confrontation de la campagne en Russie menée par Napoléon, une nouvelle coalition anti-française commence à se former, raconte l'historien Jiří Rak.
Si la Russie et la Prusse sont toujours en état de guerre avec Napoléon après l'échec de la campagne en Russie, l'Autriche joue le rôle du médiateur. Des négociations sur la formation de la 6e coalition anti-française sont menées dans plusieurs châteaux de Bohême orientale. Ainsi, Brandis nad Labem accueille la rencontre de trois empereurs, François Ier de Habsbourg, Alexandre Ier et le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III. Le congrès de paix qui devait se réunir à Prague n'aura finalement pas lieu, faute d'envoyés plénipotentiaires français. L'Autriche finit par se ranger du côté de la coalition anti-française. Une armée est mobilisée en Bohême sous les ordres du maréchal Schwarzenberg. Suite à l'échec des négociations du chancelier Metternich avec Napoléon à Dresde, les troupes coalisées livrent une bataille près de Dresde, où elles sont battues. Napoléon envoie dans la région une armée de Vandamme, qui poursuit ses troupes en retraite, mais Vandamme est défait. La bataille de Hlumetz met fin au plan de Napoléon d'occupation de Prague et de domination de la Bohême.
La bataille de Hlumetz a opposé 32 000 hommes commandés par le général Vandamme aux 54 000 hommes des forces coalisées d'Autriche, de Prusse et de Russie sous les ordres du général Barclay de Tolly. Son déroulement nous est décrit par l'historien Zdeněk Munzar de l'Institut d'histoire militaire.
Le 29 août, les unités russes, au nombre de 20 000 hommes, affrontent la supériorité du 1er corps de Vandamme, avec 32 000 hommes et 84 canons. Vandamme ne doute pas d'un avancement rapide vers Prague, mais la situation change dans la nuit du 29 au 30 août. Les commandants coalisés, dont Colloredo Mansfeld, réussissent à concentrer des renforts. Ainsi, au moment où Vandamme pense l'emporter, débouchent sur ses arrières les 10 000 soldats prussiens du commandant Kleist von Nollendorf. Poussé à rester sur la défensive, Vandamme tente de sauver son armée en attendant l'envoi de la garde du général Mortier ainsi que d'autres corps français.
Or, Napoléon n'envoie pas de renfort à Hlumetz. Des historiens ne peuvent que spéculer sur les raisons d'une telle décision. Fatigue des soldats suite à la bataille victorieuse de Dresde, livrée deux jours auparavant, sous-estimation des difficultés du terrain dans les monts métallifères. La défaveur du temps et la couleur des uniformes a aussi joué un rôle. En effet, les uniformes de couleur bleue de Prusse des soldats prussiens ont trompé Vandamme, qui les prenait pour des Français. Battu à Hlumetz, Napoléon a encore tenté à deux reprises de pénétrer dans la cuvette de la Bohême, observe l'historien Munzar.
La première, qui remonte au 9 septembre 1813, s'est terminée sans grands affrontements. Lors de la seconde tentative qui s'est déroulée le 17 septembre aux environs immédiats de la ville d'Ousti, près du col de Naklerjov, Nollendorf, les troupes françaises ont été arrêtées. Cet accrochage est resté longtemps dans l'ombre de la bataille de Roulomets, bien que par son importance, il soit comparable à celle-ci. Cette importance est d'autant plus grande que dans ce combat, l'armée française a été commandée par l'empereur Napoléon en personne, et ce dernier y a été battu.
Une croix érigée près du col de Naklerjov marque l'endroit où se trouvait une église dont la tour a servi à Napoléon de poste d'observation en septembre 1813. Cette croix n'est pas l'unique témoin des batailles napoléoniennes en Bohême du Nord-Ouest. Il y en a plus d'une dizaine de monuments commémoratifs élevés sur les lieux de la bataille de Chlumetz, Kulm, à la mémoire des soldats tombés. Une croix en pierre érigée en 1835, symboliquement sur l'un des champs les plus sanglants à Przestanów marque la plus grande tombe commune qui se trouve sur notre territoire. Plus de 10 000 soldats y reposent. L'historien Munza revient sur les pertes qui étaient élevées dans les deux camps.
Les pertes totales du côté des armées coalisées sont évaluées à plus de 10 000 hommes, parmi lesquels les Russes ont été les plus nombreux. Du côté de l'armée française, le dénombrement est plus difficile du fait que les commandants de Napoléon avaient tendance à minimiser les pertes. On peut estimer que pour les Français, il y eut jusqu'à 10 000 soldats tués ou blessés, et entre 7 000 et 13 000 capturés, y compris Vandamme. C'est dire que les pertes françaises ont représenté la destruction de plus de la moitié des effectifs, et ont été deux fois supérieures à celles des armées coalisées. La bataille a fait des victimes également parmi les commandants. Vandamme est fait prisonnier, le général russe Ostermann Tolstoï grièvement blessé et amputé de sa main gauche.
Un monument érigé près de Jdanov rend hommage au général d'Empire Dominique René Vandamme, capturé le 30 août 1813 par des Cosaques russes après la défaite de Chlumetz. Par une escorte spéciale, Vandamme est emmené à Prague, puis transféré à Moscou. En 1814, à la signature de la paix, il est de retour en France et continue à combattre au service de Napoléon. La victoire des armées coalisées sur Napoléon, dont la bataille de Chlumetz le 30 août 1813 a été perçue par la population d'Autriche-Hongrie comme une victoire autrichienne et plus encore tchèque, observe l'historien Jiří Rak.
À l'époque, la victoire sur Napoléon a été célébrée en tant que triomphe autrichien, et plus particulièrement tchèque. Des articles parus dans la presse ont écrit qu'avant sa campagne de Leipzig, Napoléon avait été pour la première fois arrêté par des versants et des cols tchèques. Les plus grands hommages ont été rendus au maréchal Schwarzenberg, commandant des soldats tchèques à Chlumetz, et au chef d'état-major, le général Radetzky. Le revers de cette victoire, des soldats blessés ont envahi Prague et le tsar russe a remercié personnellement, par une lettre, pour les soins apportés aux officiers russes. Évoquant la bataille d'Austerlitz, livrée en 1805 sur le territoire de la Moravie, la presse alors a écrit qu'à Chlumetz, Napoléon avait tenté pour la première fois dans l'histoire de traverser la frontière de la Bohême et il avait été battu.
Deux cents ans plus tard, les documents clés sur la bataille de Chlumetz font défaut. Rien n'a été préservé des archives de Vandamme, y compris les ordres et les dépêches de Napoléon. Selon Zdeněk Munzar, certains historiens français sont d'avis que les archives ont été anéanties par Napoléon lui-même, car elles révélaient qu'il avait sous-estimé les difficultés qui attendaient son armée. La bataille de Chlumetz-Kulm n'est même pas mentionnée dans ses mémoires rédigées à l'île de Sainte-Hélène. Le bicentenaire de cette bataille est l'occasion de se remémorer l'événement, une reconstitution grandiose qui a commencé ce lundi dans la ville de Slany, culminera le 30 août, jour anniversaire de la bataille, dans la ville d'Ustie, Nadlabem, en nombre record de 800 figurants en costumes historiques, 40 chevaux, 25 canons y prennent part.
C'est donc avec cette rubrique Histoire que s'achève notre émission aujourd'hui. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à notre concours de photographie qui s'intitule « Mon histoire tchèque » et dont le vainqueur gagnera un séjour de 3 jours pour 2 personnes à Prague, incluant les frais du voyage. Vous trouverez des plus amples informations sur notre site www.radio.cz/fr. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucia Drexelova. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.